Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ils sont chefs d'État, leurs pays sont membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ils se retrouvent aujourd'hui tous à Bujumbura au Burundi. C'est pour parler de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, spécifiquement le suivi de la résolution de Luanda demandant le retrait des troupes terroristes M23 des zones occupées dans le Nord Kivu. Ils sont tellement nocifs par leurs faits, gestes et actes cruels à l'endroit des populations civiles qu'ils ne font point l'unanimité dans l'opinion. Ces terroristes du M23 viennent d'être condamnés par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est après leurs récentes attaques dans diverses localités, celles ayant visé un avion militaire congolais. Nous parlons élections en fin de ce journal avec le secrétaire exécutif provincial de la CENI dans la province du Tanganyika, Saïdi Bilali, et notre invité, il s'entretient avec Paulin Munanga. Mesdames et messieurs, tout de suite, nous découvrons les autres faits d'actualité de la RDC. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. À la présentation, Billy Ivan Lutumba, la capitale économique de la République du Burundi, accueille ce samedi le 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC. Les présidents Paul Kagame du Rwanda, William Ruto du Kenya, Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda et Madame Samia Suluhu de la Tanzanie sont déjà arrivés sur place à Bujumbura. Selon notre envoyé spécial sur place Fiston Ngoma, jusque vers midi, le président Félix Tshisekedi de la RDC était encore attendu à ce sommet qui connaîtra l'absence du président du Soudan du Sud. Ce sommet sera présidé par le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye qui est en même temps président en exercice de l'EAC. Notez que le 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC, ce sommet se penchera essentiellement sur les tensions entre le Rwanda et la RDC. La porte-parole de la présidence congolaise, Tina Salama, interrogée par Radio Okapi, confirme qu'il s'agira de l'évaluation du processus de Luanda. Tina Salama est jointe par Martin Sebouchangoui.
Le président Félix Tshisekedi va prendre part au sommet de Bujumbura avec ses homologues de la East African Community pour bien évidemment parler de la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est du pays et bien évidemment des tensions qui persistent entre Kigali et Kinshasa. C'est en fait une réunion, on va dire, d'évaluation après le constat du refus du M23 RDF de se retirer complètement des zones occupées et de déposer les armes. La feuille de route de Luanda est claire à ce sujet. Il avait été donné au M23 jusqu'au 15 janvier 2023 pour se retirer complètement des zones occupées, ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'a pas été fait. Ils n'ont pas obtempéré, ils ont même repris des offensives militaires avec les soldats rwandais. La prochaine étape était de réunir les chefs d'État dans un sommet pour bien évidemment constater et passer à l'étape suivante, si je peux me répéter, qui est donc de donner des directives claires à la force régionale qui est déjà déployée pour qu'elle puisse entrer en action. Donc, c'est-à-dire qu'elle puisse être plus offensive et c'est vraiment ce que souhaite et demande le président de la République.
Au moment où s'ouvre le sommet des chefs d'État de l'EAC au Burundi, et quelques habitants de Goma ont été interrogés à ce sujet. Ils parlent d'un sommet des trop sans attendre des résultats escomptés. Si quelques-uns soutiennent la thèse du boycott par le chef de l'État congolais, ce genre de sommet pour éviter le fiasco comme celui de Luanda et de Nairobi, d'autres par contre proposent au président Félix Tshisekedi de se concentrer en réorganisant en interne le commandement de cette guerre injuste qui est imposée à la RDC. Il suggère de nouer des relations avec des pays amis pour de faire une fois pour toutes la rébellion du M23. C'est ce que propose le député provincial élu de Rutshuru, Emmanuel Ngarouye.
Ce sommet, en fait, pour moi et pour ma population, c'est un sommet de trop. Et la population n'y attend pas grand-chose. Et d'ailleurs, la population ne cesse de conseiller au président de la République d'éviter de tels sommets parce que, l'expérience faisant, le président du Rwanda et son système, qui ne sont que caractérisés par le mensonge, ont toujours profité de ce sommet pour faire des gaffes contre leurs interlocuteurs. Les derniers sommets qui avaient été organisés et des résolutions encourageantes avaient été prises. Malheureusement, ces résolutions ont été sabotées par le président rwandais Paul Kagame avec son M23. Et aucune sanction n'a été prise contre ceux-là qui ont saboté. Alors, quelle est la spécialité de ce nouveau sommet? Le président de la République devait plutôt éviter ces sommets et se concentrer à réorganiser les commandements de cette guerre. Les solutions se retrouvent chez nous à l'interne. Il devait cibler un, deux ou trois pays amis avec lesquels il doit faire des coopérations bilatérales pour défaire définitivement le Rwanda et ses troupes du M23.
L'élu des Rutshuru interpelle aussi le président de l'EAC d'éviter que son mandat à la tête de cette communauté soit un échec pour lui et pour la RDC, échec lui imposé par le Rwanda via le M23. Continue des avancées enregistrées sur terrain par le M23 soutenu par le Rwanda. La force de l'EAC dans son format actuel n'a pas sa raison d'être en RDC en remplacement de la MONUSCO. Et l'adhésion de la RDC à l'EAC présente plus de désavantages que d'avantages. Déclaration ce vendredi de Congo Action pour une diplomatie agissante, CADA. Dans sa réflexion, cette structure qui réunit les Congolais vivant aux États-Unis d'Amérique estime que ce soit sur le plan économique ou sécuritaire, la RDC ne gagne rien dans l'EAC qui, en plus, est composée de plusieurs pays agresseurs. Son coordonnateur propose le retrait pur et simple du pays de cette organisation régionale qui a abusé de la bonne foi du président Félix-Antoine Tshisekedi. On écoute Eric Kamba.
Au vu des déclarations du président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, du 28 novembre 2022, déclaration à travers lesquelles il félicite l'ONU pour les missions effectuées par la MONUSCO, il demande que cette dernière se retire au profit de la force de la communauté d'Afrique de l'Est. Paradoxalement, il demande à l'ONU de financer le déploiement de cette force d'interposition qui a des missions plus restreintes que la MONUSCO et qui est composée de certains pays qui arment en sous-main le mouvement terroriste, le M23. Sur le terrain, la situation est telle que le M23 continue à poursuivre leur conquête malgré toutes les sommations faites par la force régionale, les appelant à se retirer des positions occupées actuellement. Par contre, l'avancée de M23 consacre l'élargissement de la zone dite tampon sous le regard de la force de la communauté d'États d'Afrique de l'Est. En conclusion, la force de la communauté d'Afrique de l'Est, dans son format actuel, son mandat actuel, n'a pas de raison d'être en République démocratique du Congo en remplacement de la MONUSCO.
Voyons maintenant ce qui se passe sur terrain. Au Nord Kivu, la situation reste imprévisible sur toutes les lignes de front dans les territoires des Nyiragongo, Rutshuru et Masisi. Ce, malgré un calme précaire qui s'observe depuis 2 jours après la prise jeudi de la localité de Kiroliroé par les rebelles du M23 dans le territoire de Masisi. Les sources de la société civile signalent un mouvement massif des déplacements des populations dans tous les axes principaux du territoire. Le point de la situation avec vous, Noël Alouzi Tukaba.
Une accalmie s'observe depuis hier vendredi dans le secteur de Kiroliroé, situé à environ une cinquantaine de kilomètres au sud-est de la ville de Goma, où le M23 a installé sa position avancée sur cet axe stratégique qui mène directement à Goma via Sake dans le groupement de Kamuronza. Sur le même front sud-est, un peu plus loin de Kiroliroé, à Kingi exactement, pris de panique, les populations qui y restaient encore ont vidé le village et sont arrivées ce samedi matin à Sake, craignant d'être prises en sandwich entre deux positions des rebelles, confirment les sources de la société civile de Masisi. Sur le front nord, rien ne bouge dans le territoire de Rutshuru. Les rebelles maintiennent toujours leur position tout autour du pont Mabenga sur l'axe Kiwanja-Kanyabayonga. Cependant, sur le front est, dans la chefferie de Bwisha, dans le même territoire, des tirs ont été entendus dans la nuit de vendredi à ce dimanche matin dans le village de Shinda, situé entre les groupements de Busanza et Jomba. Nos sources dans la zone confirment sans beaucoup de précision que des actes de pillage des récoltes ont été enregistrés cette nuit dans cette zone. La situation reste relativement calme dans le groupement de Kibumba, situé à environ 30 km au nord de Goma dans le territoire des Nyiragongo, où est actuellement déployée la force régionale de l'EAC.
Deuxième titre de ce journal. Les membres du Conseil de sécurité ont fermement condamné la récente série d'attaques du M23 au Nord Kivu qui aggrave la sécurité et la stabilité dans la région qui exacerbe davantage la situation humanitaire actuelle. Dans une dépêche parvenue à Radio Okapi ce vendredi 3 février, ils se sont déclarés profondément préoccupés par les informations faisant état d'un incident impliquant un avion militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, et des forces de défense rwandaises le 24 janvier 2023 dans la zone frontalière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Paul Matendo.
Selon cette dépêche, les membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur demande de cessation immédiate des hostilités et de toute nouvelle avancée du M23 et de son retrait de toutes les zones occupées comme convenu dans le cadre du processus de Luanda approuvé par l'Union africaine. Ils ont souligné les engagements pris par la région dans le cadre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région de ne pas tolérer ni fournir d'assistance ou de soutien de quelque nature que ce soit pas aux groupes armés. La même source ajoute que les membres du Conseil de sécurité ont également condamné les récentes attaques des ADF et de la CODECO contre des civils à Ituri et au Nord-Kivu. Ils ont appelé tous les acteurs à respecter leurs obligations en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, et à faire en sorte que les auteurs des violations rendent des comptes. Ils ont réaffirmé leur ferme attachement à la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ils ont réitéré leur plein soutien à la représentante spéciale du secrétaire général Bintou Keïta et aux actions stabilisatrices de la MONUSCO.
Santé. Dans le territoire de Beni, ce sont plus de 2000 enfants du groupement de Banandeka-Inama qui courent le risque de ne pas être vaccinés contre la rougeole lundi prochain pour des raisons sécuritaires. Pour la société civile locale qui exprime cette crainte, les autorités politico-administratives et sanitaires doivent fournir des efforts avec certains partenaires, notamment la MONUSCO, pour acheminer les vaccins dans leur contrée. Son président Jonas Bin Kasumba explique au micro d'André Kitenge.
Les forces vives du groupement Banandeka-Inama sont tellement préoccupées par le programme arrêté par la zone de santé d'Oicha et celui de priver encore plus de 2000 enfants du groupement Banandeka-Inama à la campagne de vaccination contre la rougeole sous prétexte de la sécurité grandissante au sein de notre groupement. Mais ceci ne peut pas vraiment pousser la zone de santé d'Oicha de priver vraiment toute une communauté à cette campagne de vaccination, mais aussi ses autorités. La politique administrative ainsi que les autorités sanitaires peuvent se mettre autour d'une même table avec la MONUSCO si elles ont vraiment les soucis des enfants de Kainama et trouver une solution. Par exemple, la MONUSCO peut affecter son hélicoptère pour faire parvenir ces médicaments aux enfants ici à Gouma Banane Kainama. Alors, je pense qu'il est encore temps pour que ces autorités prennent des dispositions pour vraiment épargner les enfants du Gouma Banane Kainama de ces fléaux d'avenir qui peut vraiment exterminer toute une communauté.
Hormis l'insécurité, l'infirmier superviseur chargé des activités de prévention et de surveillance épidémiologique dans la zone de santé d'Oicha évoque également le manque de chaînes de froid dans la région pour conserver les vaccins. Les démarches sont en cours pour trouver des partenaires, a-t-il indiqué. L'armée, quant à elle, se dit prête pour sécuriser les équipes de vaccination dans la région. Rappelons que plus de 1000 cas et 12 décès ont été déjà notifiés depuis le mois d'octobre de l'année dernière dans cette zone de santé. Il est 12h13 à Kinshasa, vous nous suivez depuis l'Ituri. Nous allons changer de chapitre pour parler de la MONUSCO qui a débuté depuis vendredi le redéploiement des matériels pour l'opération d'enrôlement des électeurs prévue le 16 février prochain. Selon le secrétaire exécutif provincial de la CENI, c'est pour faire face aux défis sécuritaires et d'infrastructures routières qui rendent inaccessibles certaines entités à cause de l'activisme des groupes armés. Le gouvernement provincial s'est également engagé à renforcer la sécurité pour la réussite de ce processus électoral. Isaac Remoyope.
Désormais, tous les animateurs des entités territoriales du Sud Kivu sont sommés de résider dans leurs entités respectives aux côtés de leur population.
Nous parlons de l'Ituri avec la MONUSCO qui a débuté depuis vendredi le redéploiement des matériels pour l'opération d'enrôlement des électeurs prévue le 16 février prochain. Selon le secrétaire exécutif provincial de la CENI, c'est pour faire face aux défis sécuritaires et d'infrastructures routières qui rendent inaccessibles certaines entités à cause de l'activisme des groupes armés. Nous allons revenir sur cet élément dans nos prochaines éditions et nous allons directement au Sud Kivu pour parler du gouvernement provincial qui annonce d'importantes mesures pour la gouvernance dans la petite territoriale, mais aussi la réglementation de l'habitat dans la ville de Bukavu. Mesures prises au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres provinciaux de vendredi 3 février sous la direction du gouverneur de province Emmanuel Elamejo Kabedi nous en parle.
Désormais, tous les animateurs des entités territoriales du Sud Kivu sont sommés de résider dans leurs entités respectives aux côtés de leur population. C'est notamment les maires, administrateurs des territoires, chefs de chefferie, chefs de secteur, chefs de groupement et même les bourgmestres. Au sujet de la situation urbanistique, le gouvernement provincial annonce la suspension suivie de révocation de certains agents du cadastre et titres immobiliers qui délivrent de faux documents ou bordéraux. C'est notamment ceux qui sont impliqués dans la spoliation de cimetières, de l'octroi et morcellement irrégulier des parcelles sur les sites non appropriés, même sur les 10 mètres de rive du lac Kivu. À ce sujet, le Conseil des ministres provinciaux du Sud Kivu interdit à ce jour l'acquisition et la construction d'une parcelle de moins de 10 mètres sur 15 dans la ville de Bukavu. Quant à la mise en œuvre de toutes ces décisions, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidjekassi, a instruit chaque ministre en ce qui le concerne de faire appliquer ces mesures. Emmanuel Elamejoakabedi, Bukavu Radio Kapi.
La plateforme des jeunes laïcs interconfessionnels pour le changement appelle tous les jeunes congolais à vulgariser le message du pape François axé sur la prière et la lutte contre les antivaleurs dans leurs associations respectives. Titi Eric Mavoula, président de cette structure de la société civile, a déclaré hier à la presse ici à Kinshasa peu après le départ du Saint-Père pour Soudan du Sud. Titi Eric Mavoula est au micro de Paul Matendo.
Nous sommes très très satisfaits de la mobilisation que nous avons eu à faire et de la présence nombreuse de jeunes, de mamans catholiques, de papas et de tout le monde pour l'accueil du Saint-Père, que ce soit à Ndolo ou au Stade des Martyrs. Le Saint-Père est venu nous donner un message de paix. Un message de paix que nous codons aujourd'hui à nos cinq doigts. Je profite de votre micro pour demander à tous les jeunes, catholiques ou non catholiques, de vulgariser ces messages et de les vivre à tous les jeunes qui sont venus des provinces. Quand ils vont rentrer, de faire la restitution à tous les jeunes pour que nous puissions être bénéficiaires, nous tous, de cette bénédiction de la part du Seigneur. Et le message du Saint-Père demandant aux jeunes de mettre à genoux la corruption, je pense que ce sont des choses que nous devons encourager et vulgariser pour le bien-être de nos jeunes.
Actualité internationale.
Alors que des manifestations contre la France ont régulièrement lieu au Burkina Faso depuis qu'il a pris le pouvoir en septembre, le capitaine Traoré a affirmé que son souhait de voir partir les forces spéciales françaises de Ouagadougou n'avait pas d'incident sur les relations diplomatiques avec Paris. Selon lui, il y a simplement rupture à la demande du Burkina d'un accord militaire sous la présence des forces spéciales françaises à Ouagadougou. C'est juste un processus qui a été enclenché et ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Le pape François a lancé un appel à la paix au Soudan du Sud lors d'un événement où il était assis côte à côte avec le président du pays vendredi. François, en mission écuménique de paix inédite dans le plus jeune pays du monde, a averti vendredi les dirigeants politiques du Soudan du Sud que l'histoire les jugera sévèrement s'ils continuent à traîner les pieds pour mettre en œuvre un accord de paix de 2018.
L'invité.
Notre invité est le secrétaire exécutif provincial à l'intérim de la CENI dans la province du Tanganyika. Il fait une évaluation des opérations d'identification et enrôlement des électeurs une semaine après le lancement dans le Tanganyika. Saïdi Bilali s'entretient avec Paulin Mounanga.
Monsieur Saïdi Bilali, bonjour.
Bonjour, merci.
Une semaine après le lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, quelle évaluation faites-vous?
Je peux dire que jusque-là, tout va bien. Nous avons pris un bon rythme. Nous avons eu à lancer avec certains centres d'inscription dans les chefs-lieux de la province ici. Et progressivement, nous avons ouvert dans d'autres territoires de la province. Actuellement, je peux vous rassurer l'opinion public que dans les Tanganyika, dans tous les territoires, l'opération d'identification et enrôlement des électeurs a été lancée. Dans son ensemble, tout va bien. Il y a des petits problèmes d'ordre technique, mais nous sommes en train de surmonter ça et nous espérons que d'ici les 30 jours à partir du lancement, nous aurons enrôlé le maximum d'électeurs selon les prévisions faites par la CENI.
Quelles sont les prévisions pour la province du Tanganyika?
Pour l'ensemble de la province du Tanganyika, nous attendons à enrôler donc environ 1,442,025 électeurs.
Et on a déjà enrôlé combien de personnes?
Je ne sais pas donner ici les statistiques exactes parce que nous avons une chaîne de supervision. Il y a une bouche autorisée à pouvoir publier les statistiques de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Ce que nous pouvons retenir est que nous sommes en train d'évoluer à un bon rythme et nous espérons atteindre les les 100% des assignations faites par la CENI.
Et vous venez ici de parler des petits problèmes techniques souvent lors des opérations depuis une semaine. Quels sont ces problèmes?
Bon, il n'y a pas de problème majeur. Ce sont des petits problèmes d'ordre technique, soit des bourrages d'imprimantes, soit des petites pannes qui sont vite prises en charge par les techniciens qui sont avec nous ici.
J'ai constaté aussi une certaine lenteur dans certains centres d'enrôlement. Après vérification, on m'apprendra qu'il y a certains opérateurs de saisie qui ne parviennent pas à manipuler la machine pour y aller très vite. Est-ce que vous avez fait aussi ces constats?
Personnellement, je n'ai pas fait ces constats. C'est qu'on devons savoir que nous avons eu à recruter les agents et qui ont été bien formés et qui sont capables à nous rendre un service selon notre attente. Mais s'il y en a ceux qui ont une certaine lenteur, nous sommes là derrière pour les encourager, les bousculer, qu'ils soient les plus rapides possibles. Et c'est que l'ensemble de la population doit savoir, quand on se lance dans une opération, le début a toujours eu un rythme. Et au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer, le rythme là s'accélère. Et au stade actuel, je vous assure que tout va bien et le nombre d'électeurs qui se faisaient enrôler journalièrement, donc le 25, le 26, n'est plus le même. Aujourd'hui, nous allons vers les 300 électeurs par centre d'inscription. C'est que là, nous avons pris un bon rythme dans l'espoir d'avoir atteint facilement les assignations arrêtées par la CENI.
Combien de centres compte la province du Tanganyika?
La province du Tanganyika compte 641 centres d'inscription. Et ici, à Kalemi, dans la ville, nous avons 25 centres d'inscription et dans les territoires de Kalemi, nous avons 82 centres d'inscription.
Certains requérants dénoncent le fait qu'il y a les policiers qui sont censés établir l'ordre dans ces centres et sont accusés de se faire corrompre par certaines personnes qui veulent entrer rapidement pour avoir la carte d'électeur.
Personnellement, je ne suis pas au courant. Bon, en fait, j'apprends des rumeurs ici et là qu'il y a des agents commis à la sécurisation des centres d'inscription qui sont accusés de la vente des jetons. À mon niveau, ce que je suis en train de faire et ce que je demande aux superviseurs qui sont déployés sur terrain de décourager de tels actes, c'est une occasion pour moi de faire appel à la responsabilité de tout un chacun de nous. Parce que quand il y a de telles accusations, c'est qu'il y a quelqu'un qui a proposé l'argent et il y a l'autre qui en a reçu. Donc, ce qu'on devons noter est que l'enrôlement est gratuit. Donc, il n'est pas demandé à quiconque de débourser l'argent pour se faire enrôler. Donc, il faut être patient. Quand vous arrivez au niveau du centre d'inscription, attendez qu'on vous remette les jetons et qu'on vous appelle selon votre ordre d'arrivée.
Monsieur Saïdi Bilali, je vous remercie.